Bon matin tout le monde. La dernière fois que j'étais ici, il y avait moins de monde. C'était un dimanche soir, c'est étrange de voir tant de visages. La dernière fois que j'étais ici, je parlais, j'ai prêché sur la prière. J'avais comme texte la prière de Paul pour les Éphésiens qui se trouve en Éphésiens 1, à la fin d'Éphésiens 1. Et puis après ça, Doug m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé à participer aux enseignements romains le dimanche matin. Et quand j'ai vu les différents textes qui étaient offerts, bien j'ai remarqué qu'il y en avait un autre sur la prière. Je me suis dit, tant qu'à être dedans, tant qu'à travailler ce sujet-là, tant qu'à avoir besoin de ce sujet-là pour ma propre vie, bien, ça c'est une bonne chose de saisir l'occasion. Donc ce matin, nous avons parlé, justement, vous voyez à l'écran, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour nous. Qui est le thème de notre texte ce matin en Romains 8, 26 et 27. Donc, on va y aller. On va commencer par lire le texte qui nous dit, « De même, aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, le plan pour ce matin, bien, moi je vais vous parler du verset 26 en suivant à peu près un plan de première exposition du texte. Après, on va voir le contexte du chapitre 8. Puis je vais essayer aussi, dans mes capacités, de situer ce texte-là dans toute l'épître de Romains. Pour ensuite tirer des applications qui sont appropriées en lien avec le texte et son contexte. Après ça, ben, je vais donner la parole à Doug s'il reste du temps. Je suis professeur, vous savez. Donc, le moteur du texte qu'on a ici, c'est un problème et une solution. Un problème et une solution. Le problème qui se trouve au centre du texte, c'est que nous sommes faibles. Nous sommes faibles dans le sens que nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Et j'ai toutes sortes d'exemples de ça. Je pense à ma cellule de prière. J'ai un couple dans la cellule dont les enfants ne sont pas encore au Seigneur. Puis je vois semaine après semaine qu'on demande la prière pour leurs enfants. Et je vois la peine des parents qui... Ils ne savent plus quoi demander. Ils ont fait tout le tour de toutes les possibilités, puis ils prient, puis là, on ne sait plus quoi dire. Et je pense à mes propres enfants, puis moi non plus, je ne sais pas exactement quoi demander. Je ne sais pas exactement comment prier, qu'est-ce qui convient à demander au Seigneur. Je pense à ma belle-sœur, il y en a qui ont peut-être entendu parler d'Amélie, son petit bébé, Médéric. Je me rappelle de donner naissance à un enfant qui ne savait pas, mais il avait un problème au cœur, congénital au cœur. Il y a 20 ans, on mourait de ça. Mais tout d'un coup, on arrive. Puis, vas-tu survivre? Vas-tu passer les opérations? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on prie? Qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur pour donner de l'encouragement à ces parents-là? Puis mettre l'enfant en sécurité. Je pense à ma propre croissance spirituelle. Je devrais prier quoi pour moi-même? C'est quelque chose qu'on ne voit pas bien, hein? Des fois, c'est soi-même. Regarde dans le miroir, puis on a surpris des fois. Mais qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Même dans l'Église, on a parlé des projets, d'un agrandissement, on déménage-tu? S'il fallait que je demande pour une chose, je demande au Seigneur de le donner, c'est lequel? Pas évident, hein? On ne sait pas. Mais ce n'est pas un problème qui n'est qu'à nous. Dans la Bible, on voit plein d'exemples aussi de personnes qui ne savaient pas quoi demander dans la prière. On pense à les apôtres Jacques et Jean qui arrivent avec leur mémé pour demander qu'un s'assoie à la droite de Jésus, puis l'autre s'assoie à sa gauche quand il vient dans le royaume. Mais la réponse de Jésus, c'est « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Ils n'étaient pas au courant des souffrances que devaient subir les personnes qui étaient pour avoir la position de droite et la position de gauche dans le royaume. Ils ne savaient pas non plus à qui s'adresser. Ils s'adressaient à Jésus, puis lui, il dit, ben ça, c'est à mon père de donner, pas à moi. On voit Élie qui demande au Seigneur de lui enlever sa vie parce qu'il était tout seul à suivre. Je suis le seul. Et Dieu dit, non, tu ne connais pas ta situation. Il y en a 7000. Qui ne sont pas encore pris le genou à Baal. Tu sais pas. Je pense à... Attends. Paul. Oh ben oui. Paul, avec son écharde dans la chair, que trois fois il demande au Seigneur, « Enlève-moi. Enlève-moi cette écharde-là pour que je puisse te servir plus. » Puis la réponse de Dieu, « Ma grâce te suffit. » Même, on pourrait, je ne voudrais pas aller trop loin avec l'exemple, mais Jésus dans le jardin, qui a demandé à son Père. En Marc, il dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. » Et en Matthieu, on voit qu'il a dit, « S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Pourtant, il savait. Il savait ce qu'il devait faire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de savoir quoi prier? On a vu quelques exemples, mais nous ne connaissons pas le futur. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. On ne peut pas prier convenablement sans savoir ce qui s'en vient. Même le présent, on ne le connaît pas tout à fait. Moi, je vis avec ma femme, mais tout ce qu'on peut vivre, comment on peut voir les situations, tout ce qui se passe, tous ces soucis à elle, je ne pourrais pas les savoir non plus. Même si je connaissais toute la situation, on ne sait quand même pas ce qui est le meilleur pour nous. On n'a pas cette sagesse-là. En fait, on ne connaît pas non plus les voies de Dieu, sa volonté. Et une de mes luttes avec ces textes-là, c'est que des fois, j'avais l'impression de savoir ce qui convenait à demander dans mes prières. J'ai eu à méditer ça un bout de temps. J'ai eu à réfléchir et à dire en quoi, dans toute situation, est-ce que c'est vrai? Et je me suis rendu compte que là où je ne reconnaissais pas ce problème-là, bien, c'est là où je ne réalisais pas la grandeur des promesses de Dieu. Je ne réalisais pas vraiment la puissance ou l'importance de la prière. En fait, je me contentais des requêtes lâches, générales, bénis l'autre, puis aide-moi, puis à place de lutter dans la prière pour demander de quoi de précis. On avait dit on a un problème et une solution. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas qu'est-ce qui convient de demander dans nos prières. Bien, la solution à ce problème-là, c'est que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On va voir premièrement notre faiblesse. On discute de c'est quoi ces faiblesses-là. Moi, j'ai l'impression que les faiblesses qu'on a, ce n'est pas des péchés. Probablement pas non plus notre état de pécheur, c'est notre état d'humain. Hein? En tant qu'humain, c'est parce qu'on n'est pas humain. On n'est pas humain. Il paraît que je suis nerveux, hein? C'est parce qu'on est humain quand on n'a pas le futur. C'est parce qu'on est humain quand on n'a pas toute la situation présente. C'est parce qu'on est humain quand on n'a pas ce qui est le mieux. Et notre faiblesse, c'est nos limitations qu'on a en tant qu'être humain. Et c'est ça qui nous empêche de savoir ce qu'il faut prier. Donc, l'Esprit, dans notre faiblesse, nous aide. Il nous aide. J'ai pensé, premièrement, à l'aide que Jésus nous donne pour notre salut. C'est une belle aide, ça, hein? On est mort. On est fini. On est capote. On est sans puissance. Puis lui, il vient et d'une touche, il nous lève, il nous donne la vie. On a vu ce matin, Dieu nous transporte dans le royaume de son Fils, puis il y a un changement complet, 180 dans nos vies. C'est pas cette aide-là que l'Esprit nous donne, par exemple. C'est pas ce genre d'aide que l'Esprit nous donne. Le mot « aide » qui se trouve dans la parole parle plutôt de quelqu'un qui se met en dessous d'un fardeau avec nous, pour soutenir, pour le porter avec nous. Un commentateur a mentionné, c'est comme un homme qui prend l'autre bout d'un bio de bois. Je pense, j'ai un clavier chez nous qui est pesant, ultra pesant, puis pas de poigne après ça. Là. Toutes les fois que j'ai essayé de le transporter, je pense perdre 400$ en l'échappant à quelque part. Mais c'est très difficile à prendre ça à deux, par exemple. Moi, je prends un bout, l'autre prend l'autre bout, puis on avance comme s'il n'y a aucun problème. Ça, c'est le genre d'aide que l'Esprit nous donne. C'est comme la prière ne fonctionne pas bien, nous seuls, ben ça ne fonctionne pas plus, lui, tout seul. C'est un travail qui se fait ensemble. Quand nous luttons, quand nous travaillons, quand nous nous mettons à prier, quand nous nous mettons à demander des choses et à s'attendre à ce que le Seigneur les donne, bien l'Esprit vient nous supporter dans notre faiblesse. Comment est-ce qu'il nous aide? Bien, le texte nous le dit encore, il intercède pour nous. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Je voudrais prendre juste un instant pour ça, parce que je me rappelle déjà entendre que ces soupirs inexprimables-là, c'était de parler en langue. et que c'était l'Esprit qui parlait à travers nous pour nous faire demander ce qui convenait dans une autre langue. Ben, je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Premièrement, si c'est un début d'une autre, c'est pas indiqué dans le texte. On remarque, par exemple, que c'est des soupirs, c'est pas des mots. Et ils sont inexprimables. C'est pas qu'ils sont pas mon cerveau va plus vite que ma langue. Doug m'a donné un commentaire une fois sur mes prédications pour m'aider. Il dit... Je pense que c'est pas limité par la langue, la capacité de la langue. On est limité par le langage. On a des besoins au profond de nous-mêmes. On a des soupirs au profond de nous-mêmes que le langage ne peut pas exprimer. Et c'est là que le Seigneur, que l'Esprit soupire et intercède pour nous. Sans mots, sans même avoir communiqué. Et de toute façon, on le voit dans le prochain texte, le verset 27. Doug, je vais laisser ça pour Doug, là, que Dieu connaît les pensées de l'Esprit. Il ne faut pas que je parle de tout. Hein. Donc, mais quelle belle image, par exemple, que nous soupirons sous un lourd fardeau, qu'on a des difficultés à tenir. Puis l'Esprit, il vient, non seulement qu'il vient en dessous avec nous pour nous aider, mais il n'est pas en train de nous placoter ça, là. Il n'est pas en train de discuter de comment c'est plus facile maintenant qu'il y a... Non. Lui aussi, il soupire avec nous sur ce fardeau-là. Et lui, c'est une attitude tout à fait appropriée pour compatir à nous, faibles comme nous sommes. Donc, si on arrive à cette question de l'intercession, bien en fait, intercéder, c'est quoi exactement? Ben nous sommes dans une situation pénible, de souffrance, de combat. On le voit dans le texte avant, comment que la création soupire après la rédemption. Puis nous soupirons après la rédemption finale. On l'a vu la semaine passée avec Marco et avec Doug. Bien, dans cette situation-là, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans la prière. On n'est pas capable de demander à Dieu ce qui est approprié. Bien, lui, l'Esprit vient intercéder, il vient parler en notre faveur. Un exemple. On voit dans la Bible, c'est Jésus quand il est allé voir Pierre, Simon-Pierre, puis il dit, « Simon, Satan a demandé de t'avoir pour te cribler comme du blé. » Pierre, étais-tu au courant? Non. Savais-tu qu'il avait ce besoin-là? Du tout. Et priais-tu pour ça? Sûrement pas. Jésus a dit, « Mais moi, j'ai prié pour toi. » Et si Pierre avait su que c'était pour arriver comme ça. Y aurais-tu prié la même prière que le Seigneur Jésus qui dit, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Moi, je pense que moi, si j'avais été Pierre puis j'avais été au courant, j'aurais dit, « Mais éloigne-lui de moi puis laisse-moi donc pas passer cette expérience-là. » Mais Jésus intercédait d'une autre façon, d'une meilleure façon, que sa foi ne défaille pas. Et quand il est revenu, qu'il affirmait ses frères. Donc, il intercède. Ce qui nous amène à une illustration qu'on pourrait prendre avec l'Esprit qui traduit des requêtes. Doug, il est allé il y a quelques années en Congo. Je pense qu'il a parlé en français là-bas, mais il doit avoir rencontré toutes sortes de monde de toutes sortes de langues. Puis on imagine que Doug, il est là-bas en Congo. Il n'est pas malade comme qu'il a été, mais on va imaginer qu'il est correct. Puis il va prêcher dans un petit village où il ne parle pas la langue. Donc lui, il arrive là, il ne connaît pas la langue du peuple. Il ne connaît pas la culture du peuple. Il ne connaît pas les personnes qui sont là, l'Église, leurs besoins, rien. Il n'y a aucune connaissance d'eux autres. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va trouver un traducteur. Il va trouver quelqu'un du village qui parle et la langue de Doug et le langage du peuple, qui est capable de traduire le message. Un peu le travail de l'esprit, de traduire pour nous. Mais son aide va plus loin que ça. On va parler de soupirs inexprimables. Parce que lui... et de manque de connaissances. L'esprit, comme un traducteur souvent, il n'arrête pas à simplement traduire des mots bêtement, un après l'autre, et des phrases un après l'autre. Souvent, bien, ils peuvent ajuster un peu le message, ajuster la structure de phrase, ajuster la structure, la façon de s'organiser, pour faire en sorte que ce soit plus compréhensible, que ça reflète plus la volonté du prédicateur que les mots qu'il avait choisis dans cette culture-là, puis pour ce peuple-là. Même des fois, il y a pour ajouter une ligne ou une explication. Je l'ai déjà fait quand j'ai traduit pour quelqu'un. J'ai ajouté un petit bout que l'autre n'avait pas dit. C'est parce que ça le prenait pour faire en sorte, pour bien exprimer ce que l'autre avait dit, pour faire en sorte que l'assistance puisse comprendre. Bien, Il pourrait même changer les choses. Des fois, on pourrait avoir, on dit quelque chose que c'est pas, au moins dans la culture, dans le contexte, c'est pas applicable, et on pourrait le transformer pour faire en sorte que ça soit plus approprié. Mais c'est ça que l'Esprit nous fait pour nous devant le Père. Nous ne connaissons pas ce qu'il convient de demander. Bien, lui, il intercède. Lui, il vient ajuster, ajouter, changer nos prières pour faire en sorte que les vraies demandes au fond de nos cœurs, les vrais besoins qu'on a, que peut-être on ne connaît pas, soient exprimés à Dieu. À travers nos prières, nos mots qui conviennent peut-être pas du tout. J'ai même, je lisais hier dans les confessions de Saint-Augustin, Augustin de Hippo, lui, il partait pour aller à Rome, puis sa mère ne voulait pas. Elle avait peur qu'il aille à Rome, puis qu'il s'éloigne encore plus. Il n'était pas au Seigneur encore. Puis elle avait peur qu'il s'éloigne encore plus du Seigneur, qu'il ne vienne jamais, revienne jamais, qu'il peut-être qu'il meure en chemin, je ne sais pas. Mais lui, il est parti à son insu. Puis il dit, plus tard, en ayant compris, Augustin écrit, « Mets-toi, Seigneur, dans les profondeurs de tes conseils, et ayant entendu le fond de son cœur, du cœur de sa mère, tu n'as pas considéré ce qu'elle demandait à ce moment-là, afin de faire de moi ce qu'elle désirait réellement. » Le Seigneur a ignoré ses prières, la demande qu'elle avait donnée, mais en entendant le cœur, il lui a donné ce qu'elle désirait plus profondément. Et je trouve ça étonnant que, c'était hier, j'étais parti de basket de Timothée, puis j'ai lu ça, j'ai griffonné ça avec un charpie sur un bout de papier. Mais faire absolument un super de bon exemple de ce qu'on veut dire. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prêche, hein, on prêche pour changer des vies. Si on lit la parole, ben c'est pour apprendre des choses, pour qu'on puisse mieux vivre, pour mieux connaître notre Seigneur, mieux connaître ce qui s'attend de nous, puis comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Bien, quelques applications du passage pour commencer. Premièrement, bien, je pense que c'est simple, hein? Prions. Ici, dans la parole, on est assuré qu'on a un traducteur. On a quelqu'un qui s'attend, prêt à transformer nos demandes en ce qui convient pour que Dieu puisse nous bénir, nous donner ce qu'on a de besoin. Il dit qu'il attend pour nous aider. Là, il est là avec le bio du bois, là, un bout, là, puis tiens. Puis il attend juste qu'on prend l'autre bout et qu'on avance avec lui. Mais compris. Compris. Ça nous dit que l'Esprit intercède pour nous, mais travaillons à la prière. C'est pas simplement je me dis, c'est pas simplement de prendre un bio puis de transporter. Il y a peut-être une tonne de bio qu'on pourra prendre. Puis lui, il est toujours prêt à former. Qu'on fasse pas une prière une fois, puis quelque chose de général, puis Dieu qu'on s'en est débarrassé. Il est là, il attend, il veut. Il veut traduire pour nous, il veut amener nos vrais besoins au Seigneur. Bien, qu'on travaille à la prière. Je lisais la biographie de David Brainerd, un missionnaire au Nouvelle-Angleterre dans les 1700, le même temps que Jonathan Edwards, qui priait jusqu'à ce que quand il levait ses genoux, tremblait, par manque de force. Qu'on travaille à la prière. Aussi qu'on soit encouragé par ses vérités. Qu'on n'ait pas peur de demander les choses au Seigneur, de peur qu'il nous les donne, à moins qu'on demande avec un mauvais cœur, mais le Seigneur, il veut nous donner ce qu'on a de besoin. Mais qu'on soit spécifique, qu'on soit encouragé, qui est là. Mais je voudrais aller plus loin et voir les applications de son passage dans son contexte, parce que ça se trouve, lui, le chapitre 26, le verset 26 se trouve dans le chapitre 8, qui se trouve dans le livre de Romains. Donc, je trouve que ça serait intéressant de voir si on a des applications à prendre, si on regarde un petit peu plus large. Donc, on voit dans le chapitre 1 à 3 de Romains que tous sont coupables devant Dieu. Religieux, non-religieux, païens, blanc, noir, africain, nord-américain, Amérique du Sud, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ta vie, peu importe tes efforts, tous sont coupables devant Dieu. Le chapitre 3-5, on voit que le salut, c'est pour tous par la foi. On a un changement. C'est pas par la loi qu'on va essayer d'y arriver. Il explique que c'est par la foi qu'on va arriver à quelque chose de différent, un salut. Ensuite, le chapitre 6 et 8, ben, Paul commence à décrire c'est quoi. Qu'est-ce que ça a de l'air, cette nouvelle ère dans laquelle on vit sous l'Esprit? Et le chapitre 8 arrive à nous expliquer, un par un, les différents avantages de la vie sous les régimes de l'Esprit, à place d'être sous les régimes de la loi. On les voit. Et je me demande, est-ce qu'on vit les avantages de Romains 8? Est-ce qu'on vit quotidiennement à se rappeler que l'esprit est là pour assujettir la chair? Est-ce qu'on saisit de ce travail-là de l'esprit? Est-ce qu'on saisit le travail de l'esprit qui rend témoignage de notre adoption? Est-ce qu'on saisit le fait que l'esprit garantit notre héritage? Est-ce que c'est quelque chose qui est actif en nous, comme l'esprit voudrait l'être? Et pour nos versets à nous, bien, dans tout ce contexte-là, est-ce qu'on saisit le fait que l'esprit nous aide dans notre faiblesse? Est-ce qu'on voit ça comme le ministère principal du Saint-Esprit? Et si j'avais quatre choses à dire sur la vie du Saint-Esprit, je ne suis pas sûr que c'est ça que j'aurais pensé, moi, dans toute ma grande sagesse. Mais Dieu, dans sa sagesse à lui, a décidé de nous le donner comme un des quatre grands ministères de l'Esprit. C'était d'intercéder pour nous. Est-ce qu'on le saisit? Est-ce qu'on s'en sert? Finalement, j'aimerais aussi voir les applications de ce passage dans le contexte de l'Évangile. Moi, je ne voudrais jamais laisser passer une occasion de parler avec des gens sans rappeler. Pour des croyants, des incroyants, peu importe où se connaît, rappeler l'Évangile. On voit un petit peu plus loin en Romains 8 le plus grand don que Dieu nous donne. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Les quatre avantages de la vie sous l'Esprit, les quatre ministères du Saint-Esprit, c'est le tout avec lui. C'est les clés qui viennent avec le char qu'on achète. C'est le cadeau gratuit qu'on nous donne à IGA quand on achète notre épicerie. Mais imagine, on pense à ces quatre ministères-là, comment c'est grand, comment c'est important pour nous. Et Paul dit, comment nous donnerait-il pas aussi tout? Ben, aussi tout. Ben, si en aussi, c'est parce qu'il y a de quoi de plus important avant. Et moi, tout ce passage-là, de penser que l'Esprit intercède pour moi, me fait penser à comment que mon Seigneur est venu mourir sur la croix pour que lui y intercède. Je prends ma place, paie ma dette, et là, il est au ciel qui intercède pour moi. Quelle grande vérité. Et par l'Esprit, qu'on saisisse ces vérités-là et qu'ils transforment nos vies. Donc, j'aimerais ça vous méditer ces choses-là. Vous avez quelques minutes maintenant pendant que Doug va prêcher.
Nous voilà rendus au verset 27. Merci beaucoup. Et nous allons lire le verset 27. Will nous a parlé du premier sujet dans ces versets qui est la prière. J'aimerais vous parler de découvrir la volonté de Dieu. Verset 27 nous dit que celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et je dois vous dire que dans les années de travail pastoral que j'ai fait, j'ai l'impression que c'est le sujet qui revient le plus souvent. Comment savoir qu'est-ce que Dieu veut dans telle circonstance? Comment trouver la volonté de Dieu? Quatre questions. J'aimerais vous suggérer que souvent, on parle de trois différents aspects de la volonté de Dieu. Il y a d'abord la volonté souveraine de Dieu, ses décrets. Ces décrets qui sont dans une mesure cachés puis qui sont révélés dans l'histoire. Dieu sait depuis le début jusqu'à la fin tout ce qui va se passer. C'est lui qui l'a décidé souverainement. Je pense que le meilleur exemple, c'est la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, en prêchant après, il va dire, selon le dessein arrêté de Dieu, méchamment, vous avez tué le prince de la vie. Vous êtes responsable des gestes que vous avez posés en faisant crucifier Jésus, mais c'était selon la volonté de Dieu. Qui l'aurait su? C'était caché. Hein? Puis tout ce qui va se passer à l'avenir, Dieu le sait, il a décrété, il a décidé, il est souverain, il est le maître de l'histoire. Je suis passablement inquiet des armes nucléaires qui se propagent. on regarde la Corée du Nord, on regarde l'Iran. Hier, vendredi et samedi, je crois, les grandes nations, l'Angleterre, la France, les États-Unis, avec la Russie et la Chine, ont pris deux journées de négociations avec l'Iran sur les questions de bombes nucléaires. Puis l'Iran les a envoyés promener, carrément. Et moi, qui suis le père de quatre petits-enfants entre l'âge de 2 ans et 8 ans, je me demande, ils vont-tu vivre une guerre nucléaire? Parce qu'on regarde l'Iran, puis le Pakistan, puis la Corée du Nord, puis dans certains de ces pays-là, c'est des fous. Hein? C'est des insensés. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces armes-là? C'est inquiétant. Mais je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais qu'il est souverain, qu'il est en contrôle, puis moi, j'ai confiance à long terme. Alors, dans un sens, la volonté de Dieu, les décrets de Dieu qui gouvernent cet univers, qui gouvernent notre monde, sont cachés, on ne les connaît pas. Il y a aussi la volonté, deuxièmement, morale de Dieu, qui est révélée dans la Bible, et ça, c'est clair. Dieu a une volonté morale, les 10 commandements, par exemple. Sa volonté morale qui est révélée beaucoup dans la loi, puis dans une moindre mesure dans nos consciences. La loi de Dieu est parfaite, nos consciences sont imparfaites. Mais cette volonté de Dieu-là est un reflet de sa personne morale, de qui il est, de sa sainteté, de sa pureté. Et ça, c'est la volonté de Dieu que nous soyons comme lui. Le commandement de Dieu, c'est ceci, « Soyez saints car je suis saint. » Donc, on doit être comme lui. Ça, c'est la volonté morale de Dieu. C'est révélé dans la Bible, c'est clair ça, puis on peut le connaître cela. Puis il y a cette troisième volonté de Dieu qu'on découvre beaucoup en écoutant des personnes, en lisant, c'est la volonté individuelle de Dieu pour nous. Que Dieu a une volonté pour moi. Il a choisi ma femme, il a choisi mon travail, il a choisi mon auto, ma maison, puis toutes ces choses-là. Puis mon travail, c'est de découvrir la volonté de Dieu dans ma vie. Puis moi, je vais oser ce matin mettre en doute cette troisième. Je vais oser le faire. Puis je réalise que je risque d'être lapidé par certaines. Et je vais confesser avec humilité que nous sommes différents des unes des autres. Je ne suis pas une mystique. Pas du tout. Je suis comptable de formation. Je parle des fois avec des jeunes gens qui vont se marier. Dieu m'a montré que c'est elle. Bon. Moi, je suis le gars là, que j'ai appris à la petite école, à l'université et ailleurs, que lorsqu'on regarde pour acheter 3 machines différentes, on veut choisir entre 3 équipements, mais on fait une grille d'évaluation, machine 1, machine 2, machine 3, puis là, sur le côté, on dit le prix, puis est-ce que ça fait le job qu'on veut, puis est-ce qu'on va avoir un bon support, réputation du vendeur, durabilité de la machine, toutes ces questions-là, puis on donne des pointages de 1 à 10 dans chaque point, puis on fait le total des points, puis on dit, mais lui, c'est 300, puis lui, c'est 400, puis lui, c'est 600, on va prendre celui qui est 600 points. Hein? C'est comme ça qu'on fait une évaluation d'un projet. Et puis, c'est comme ça que j'ai choisi ma femme. Puis elle a eu 100% sur tout. Alors, c'était difficile. Non, la vérité, c'est qu'il y avait juste une qui voulait me parler. Alors, j'ai pris cela. Mais vous comprenez que je réalise qu'on est différents des uns des autres. Puis, je veux quand même vous montrer un autre point de vue sur cette question-là. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai marqué 3 raisons, puis j'en ai mis 4. Pourquoi que je mette en doute tout cela? D'abord, c'est parce qu'on ne peut pas établir l'existence d'une volonté individuelle de Dieu, ni par la raison, ni par l'expérience, ni par l'exemple biblique, ni par l'enseignement biblique. Moi, je ne trouve pas ça dans la Bible, puis je ne trouve pas ça dans l'expérience. Deuxièmement, chercher une telle volonté a apporté beaucoup de frustration pour plusieurs. J'ai-tu vu du monde frustré avec ça? Troisièmement, j'aimerais vous dire que ça ne fonctionne pas souvent. Et quatrièmement, c'est très subjectif. Moi, je ne m'oublierai jamais, je pense que j'ai déjà dit ici, si je redote, excuse-moi. Voilà 45, 46 ans, ou je ne sais pas, 1965. Je me souviens d'un ami à l'école biblique au Nouveau-Brunswick qui, qui avait deux filles dans sa vie. Il y avait deux filles qui étaient en amour avec lui. Je n'ai jamais vécu ce problème-là, mais lui avait ce problème-là. Puis, il voulait savoir à Noël, je vais aller visiter quelle fille. Puis là, là, il a prié, puis là, il a ouvert sa Bible, puis il a fait. Lot a voyagé vers l'Est. Puis il y avait une des filles qui venait de Nouvelle-Écosse, puis une autre qui venait de l'Ontario, puis nous, on était à Nouveau-Brunswick. Il était allé en Nouvelle-Écosse parce que Dieu lui avait révélé sa volonté. C'est-tu subjectif, ça? Comme une personne qui m'a dit une journée, je suis convaincu, c'est la fille que Dieu m'a donnée. Puis deux, trois semaines après, c'était une autre fille. Alors je me dis, où sont les balises, les critères objectifs qui ont décidé pour lui que c'était la volonté de Dieu? C'est très émotionnel. J'aimerais vous proposer plutôt ceci. J'aimerais vous proposer quelque chose que je trouve qui est un petit peu public pour ce point-là. C'est la voie de la sagesse. Et j'ai quatre étapes ici dans ma logique ici que j'aimerais vous proposer. D'abord, lorsque la volonté morale de Dieu est révélée dans la Bible, on obéit toujours. On obéit toujours. Si tu me dis, comme certains m'ont dit, Dieu m'a donné la permission de vivre avec cette femme-là, même si on n'est pas marié, Dieu m'a montré que c'était sa volonté, je vais vous dire, écoute bien là. La volonté morale de Dieu est clairement révélée. Et sa volonté est selon sa parole, déclarée, solide, éternelle, selon sa sainteté. Alors, on obéit toujours à la volonté morale de Dieu. Et nos idées subjectives et nos impressions et nos préférences n'ont rien à voir dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La volonté morale de Dieu en premier. En première. Deuxièmement, là où il n'y a pas de principe biblique ou moral, le croyant est libre de choisir et de décider, cela ne déplaira pas à Dieu. Alors, monsieur, vous avez le grand problème d'avoir deux femmes en amour avec toi. On vous envie tous. Moi, je pense que peut-être plutôt que de vous tourmenter à prier, puis à jeûner, puis à je ne sais pas quoi, chercher une révélation, un signe au ciel, peut-être vous devez vous asseoir et dire laquelle m'appelait le plus, puis je vais le marier celle-là. C'est-tu charnel de dire ça? Hein? Et peut-être que ça va vous éviter des problèmes. Peut-être que c'est le temps de sortir votre grille d'évaluation. Là où il n'y a pas de principe biblique ou moral, l'objectif du croyant est de prendre des décisions sages. Je vais vous partager une habitude de vie que j'ai, puis je ne suis pas toujours le meilleur exemple, mais j'ai beaucoup appris par cela. J'ai l'habitude chaque matin de passer 2 heures chez nous environ à étudier. J'ai toujours des messages à préparer, des études à préparer, quelque chose à écrire. J'essaie de passer quelque part entre 6h, 8h, 7h, 9h, une couple d'heures chez nous à étudier. Quand j'arrive au bureau en face, où j'ai des décisions à prendre de journée longue, je commence toujours par lire un chapitre du livre de Proverbes, chaque matin. Puis dans le livre des Proverbes, nous trouvons la sagesse pour vivre. Combien de fois, devant une décision importante que j'ai à prendre, où je suis complètement embêté, puis je ne sais pas la volonté de Dieu, puis je cherche la volonté de Dieu. Ce matin-là, dans le livre de Proverbes, le Seigneur me donne un verset clair. C'est arrivé pour les 2 semaines. C'était clair comme l'eau de roche. Mais dans le livre de Proverbes, on trouve la sagesse de Dieu pour nos vies de tous les jours, n'est-ce pas? Puis on est éduqué. Puis je pense que c'est là le gros bon sens. C'est ça, la vie chrétienne normale, c'est que nous sommes éduqués dans la sagesse de Dieu pour nos vies, puis au lieu d'être ésotérique, puis spirituel, que je déteste la façon que ce mot-là est utilisé aujourd'hui, au lieu d'être rêveur, puis penseur, puis aller avec des impressions, plutôt que nous avons la conscience, la vie, la connaissance, éduquée par la parole de Dieu, et devant des situations de la vie, la sagesse. Vous cherchez une fille, vous cherchez un mari, le livre des Proverbes est rempli d'indices de qualité pour la bonne sorte de femme et la bonne sorte de gars à marier, n'est-ce pas? C'est rempli le livre de Proverbes comme ça, de ça. Vous lisez-le. Et peut-être que vous allez exercer le gros bon sens que le Seigneur vous a donné. Quatrièmement, dans toutes ces décisions, le croyant se soumet à la volonté souveraine de Dieu à mesure que cela devienne évident. Vous savez qu'on ne connaît pas le futur, et souvent on va prendre une décision, puis on va avancer, puis on va garder les yeux ouverts, puis le Seigneur va nous donner des indices pour avancer. Ou pour arrêter. Hein? On est soumis à cela. On est soumis à cela. Quelques principes ici. Dieu a une volonté parfaite pour nous, mais il ne le révèle pas nécessairement d'avance. Bon, je crois beaucoup à la souveraineté de Dieu. Et je crois que Dieu a décidé ma vie en détail. Tous les... lis le psaume, c'est tout le psaume 139 qui parle des bébés. Qu'est-ce que David dit? Il faut que je lise. Excuse-le, je l'ai pris par cœur cette semaine, mais... Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Mais oui. Le Seigneur a un plan pour nous. Le problème, c'est qu'il ne le révèle pas nécessairement d'avance. Comme un peu les décrets de Dieu sont cachés, ils sont révélés dans l'histoire passée, puis qu'on peut deviner à l'avenir, il y a certaines. Il y a des indices dans les Écritures, mais les détails ne sont pas là. C'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne le révèle pas nécessairement d'avance. Puis, deuxième principe, c'est que l'important dans la volonté de Dieu, c'est sa volonté morale. Ma mère disait souvent, occupez-vous des petites choses, puis Dieu va s'occuper du reste. Puis, ma mère disait aussi, occupez-vous des seins noirs, puis Dieu va s'occuper des dollars. Ça, c'était sa sagesse qu'elle avait, ma mère, puis elle n'avait pas tort. Occupez-vous de vivre pour Dieu, d'avoir un cœur propre, une vie propre. Les autres choses, ce n'est pas compliqué. Troisièmement, passer trop de temps à chercher la volonté individuelle de Dieu n'est pas toujours saine. Pas toujours saine. Personne qui se tourmente avec ça. Ça ne fait pas des enfants forts. Quatrièmement, puis là, on vient à notre verset. Le Saint-Esprit connaît cette volonté, puis il intercède pour nous. Puis est-ce que tu le vois comment les deux pensées que Will a et que j'ai ce matin sont ensemble? C'est que la volonté de Dieu... Pour nous, on ne le connaît pas. Le Saint-Esprit le sait. Puis il intercède pour moi. Oh, c'est donc rassurant pour moi. Parce que Dieu n'est pas contre nous. On va avoir du plaisir dans les prochains jours. Là. Les versets qui restent dans Romains chapitre 8, c'est mes versets préférés dans la Bible. Puis une des questions qui est posée, c'est Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Ceux qui luttent avec la paranoïa, des fois, disent, tout le monde est contre moi. Mais des fois, on a l'impression que Dieu est contre nous. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Dieu est pour vous. Puis le Saint-Esprit, il connaît la volonté de Dieu. Puis nous, on ne connaît pas la volonté de Dieu. Puis il intercède pour nous. Alors, quand on fait des petites décisions, puis on cherche à faire le bien, puis on veut faire ce qui est comme faux, je pense qu'on peut avancer avec du bon sens, selon la sagesse de Dieu que nous avons découvert dans la parole de Dieu, puis particulièrement dans le livre de Proverbes, qu'on a lu régulièrement. Excuse cette longue phrase, mais... Mais quand on vit comme cela, on a confiance parce que de toute façon, le Saint-Esprit, il connaît la volonté de Dieu, puis il intercède pour nous. Puis ce n'est pas n'importe qui intercède pour nous. C'est Dieu, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, Dieu tout-puissant, tout connaissant, Dieu qui peut faire n'importe quoi. Et sixièmement, parfois Dieu révèle sa volonté de façon spéciale et dans ces situations, il faut obéir. Écoute bien. Nous ne sommes pas tous des robots, nous ne sommes pas tous des photocopies l'un de l'autre. Nous avons des personnalités différentes. Et si je suis assez objectif, puis j'essaie d'analyser les situations, à prendre des décisions, je réalise qu'il y a des personnes ici qui sont très différentes de moi. Puis dans ma propre vie, je dois vous dire qu'il y a des fois que Dieu a clairement révélé sa volonté pour moi, de façon subjective. Cela m'est arrivé. Écoutez, à l'âge de 13 ans, je savais que j'allais revenir au Québec pour prêcher l'Évangile. À 13 ans, je savais ça. Quand j'avais 12 ans, mon père était transféré à Sorel. J'étais à l'école secondaire en français. Imaginez-vous donc, je parlais mieux français. Je ne cassais pas le français quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et quand j'étais à Sorel à cette époque-là, il n'y avait aucune église évangélique. Puis dans mon petit cœur, on n'avait pas été l'église presque pas pendant 2 ans. Puis je me suis beaucoup ennuyé de mon église locale, la Nouvelle-Écosse. Puis je me suis dit, un jour, je vais revenir, puis je vais travailler pour qu'il y ait des églises au Québec. Ça, j'étais convaincu de cela. Mais j'ai eu cette conviction-là toute ma vie. Alors, des fois, le Seigneur met dans nos cœurs des choses. Je ne suis pas contre cela. Puis quand Dieu fait cela, il faut le vérifier. On le vérifie avec la sagesse des autres qui nous entourent, qu'on respecte. On voit comment le Seigneur conduit dans différentes situations. Je me souviens, l'année que j'ai fini l'école biblique, j'essayais de voir qu'est-ce que j'allais faire. Puis j'ai reçu une lettre de Norman Buchanan qui m'a invité pour travailler en face à l'imprimerie qui était là. Alors, voyez-vous, l'appel du Seigneur de ma vie, des circonstances qui m'ont aidé. Vous me comprenez? Hein? Alors, dans ces choses-là, il faut obéir. Je termine, c'est même pas moins 10. Miracle. Chers amis, arrêtez donc de vous torturer si vous êtes une de ces personnes-là qui cherchez désespérément la volonté de Dieu, puis vous n'êtes jamais certain de vous. Reconnaissez donc que certains de nous, nous avons des défauts de personnalité. Nous avons tous des défauts de personnalité, c'est parce qu'ils sont différents hein, l'une de l'autre. Puis, ce qui me préoccupe principalement ce matin, c'est que la volonté de Dieu, je le répète, puis je vous laisse avec cela, est surtout morale. OK? Puis vous ne découvrez pas la volonté de Dieu avec paix dans votre cœur pour votre travail, puis pour votre blonde, puis pour votre épouse, puis pour votre mari, et pour votre auto, si vous avez des problèmes avec la volonté morale de Dieu dans votre vie. Vous me suivez? Hein? Mettez votre vie en ordre. Dieu va s'occuper du reste. Et la volonté de Dieu est paisible, et c'est bon, et c'est parfait. Et il se fait un plaisir qu'on découvre sa volonté. Hein? C'est son plaisir. Dieu n'est pas méchant. Il n'aime pas nous torturer et nous faire... Tu sais, il y a certaines femmes, il ne faut pas les nommer, on leur dit, « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? »« Je sais pas. » Dieu n'est pas comme ça. Alors, approchons la vie et cette question-là avec la grande confiance que Dieu veut pour nous, Dieu est pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous, il connaît la volonté de Dieu. Occupons-nous de notre vie morale, puis avançons avec confiance. Puis le Seigneur nous donnera la joie dans notre vie. Seigneur, sépare-nous avec ta bénédiction maintenant. Donne-nous l'équilibre dans ces questions. Ton fils Jésus a dit lorsqu'il est entré dans le monde, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Et nous aussi, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Et nous demandons que tu nous aides à le faire, à le découvrir. Donne-nous de connaître ta sagesse par notre étude de ta parole. Merci que ton Saint-Esprit travaille à travers ta parole, il travaille par ta parole. Il se révèle à nous lorsque nous sommes souvent immergé dans ta parole. Et Seigneur, donne-nous la joie de découvrir et de vivre ta volonté dans nos vies. Je demande au nom de Jésus.